Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Samuel Bernard, Clémence Alezarane, Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontani. Suite donc de notre série consacrée à la Grande-Bretagne, après avoir évoqué les enjeux des prochaines élections qui se tiendront demain, puis le modèle d'intégration à l'épreuve de la menace terroriste, on va se pencher ce matin sur les conséquences possibles du Brexit sur l'économie britannique.
If we leave the single market, actually our analysis says we'd be worse off than that.
Si on sortait du marché unique, c'est très clair pour les analystes du ministère des Finances, cela provoquerait un choc important sur le marché du logement par exemple. Cela aurait un impact sur la valeur des maisons. La question, ce n'est pas juste qui nous sommes en tant que pays. Cela va aussi toucher le cœur de la sécurité financière des gens. Et vous avez aujourd'hui les partisans de la campagne du Leave qui disent « on va sortir du marché unique ». Pour moi, c'est une erreur économique absolument catastrophique pour notre pays.
To depart the EU would be costly in the long run, even after this uncertainty has been resolved.
La décision de quitter l'Union européenne serait coûteuse à long terme, même une fois la période d'incertitude passée.
The implications of which could be particularly severe.
Et à court terme, il y aurait le risque d'une réaction défavorable du marché à cette décision, ce qui pourrait avoir des conséquences très graves.
On entendait deux voix, celle de George Osborne, l'ancien ministre des Finances du gouvernement David Cameron, et puis Christine Lagarde, directrice du FMI. Au cours des mois qui ont précédé le référendum sur le Brexit, la plupart des responsables, analystes, économistes n'ont cessé de répéter que la victoire du Leave entraînerait un effondrement de la livre, une hausse du chômage, un recul de la consommation et de l'investissement. Pourtant, près d'un an plus tard, force est de constater que le cataclysme économique n'a pas eu lieu. Alors certes, la livre a chuté, l'économie nationale affiche depuis quelques semaines seulement un léger fléchissement, mais le chômage a atteint son plus bas niveau depuis août 2005 et ni la consommation ni les investissements n'ont reculé, bien au contraire. En février, la Banque d'Angleterre a même revu ses prévisions de croissance à la hausse pour 2017 avec 2% contre 1,4% annoncé précédemment. Mais rien n'est gagné pour autant puisque le 19 juin prochain, dans quelques jours donc, débuteront les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, dont l'issue sera déterminante cette fois pour l'économie britannique. La City de Londres notamment retient son souffle, la première place financière du monde pourrait perdre le fameux passeport qui lui ouvre grand porte des marchés financiers européens. Face à ces nouvelles contraintes, la City pourrait-elle déménager à Francfort, Dublin ou encore Paris? Avec quelles conséquences pour le Royaume-Uni, alors que le secteur financier représente quand même 15% du PIB britannique? Et dans un contexte où la livre sterling continue de baisser, la croissance britannique pourrait-elle marquer le pas? Quelles seraient alors les conséquences sur les futures négociations qui devraient durer 2 ans? Quel accord le Royaume-Uni a-t-il intérêt à promouvoir pour protéger son économie de la rupture avec le marché unique? Voilà les questions sur lesquels nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités avec nous en plateau. Anne-Laure Delatte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études et de recherche en économie internationale. À vos côtés, Catherine Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE et spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Alors, d'abord, beaucoup d'observateurs, d'économistes nous annonçaient un cataclysme économique, Catherine Mathieu. Il n'a pas eu lieu. L'économie britannique se porte plutôt bien. Les prévisions de croissance sont très bonne, je le disais. Les prévisionnistes se sont trompés. Les prévisions catastrophistes qu'on attendait, qu'on nous a proposées, ne se sont pas déroulées comme on le pensait.
Alors je dirais, pour défendre les prévisionnistes, qu'on est quand même dans une situation qu'on n'a jamais connue à l'intérieur de l'Union européenne, d'avoir le cas où un pays décide de sortir de l'Union européenne. Donc avant le vote de juin dernier, il y avait eu un certain nombre d'études qui avaient été réalisées et qui essayait d'évaluer l'impact qu'aurait une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ces études étaient principalement publiées par, si on va chronologiquement, si on commence vraiment par l'ordre de sortie de ces études, par le gouvernement britannique, par l'OCDE et par le Fonds monétaire international. Et ces études annonçaient toutes, effectivement, qu'il y aurait un ralentissement à court terme de l'économie britannique et à long terme. Et les effets à court terme qui étaient annoncés, on en a vu seulement une partie. Ce que vous avez mentionné à l'instant, c'est-à-dire la baisse du taux de change de la livre. Effectivement, la livre a baissé d'à peu près 10% suite au vote. On a vu Une chute de la bourse, mais qui n'a duré que quelques jours. Et la bourse s'est depuis redressée et aujourd'hui a retrouvé des niveaux bien supérieurs à ceux qu'elle avait en juin dernier et évolue comme s'il ne s'était rien passé, en fait. Et puis, les effets sur le plus macroéconomique d'une baisse de l'investissement, pour l'instant, nous ne les avons pas vus. Ce qui avait été mentionné aussi par les prévisionnistes, dont je ne faisais pas partie, je dois dire, qui annonçaient un fort ralentissement de l'économie britannique s'il y avait un vote en faveur du Brexit. Parmi ces effets, il y avait la chute des prix dans l'immobilier. Mmh. Et en fait, là, on a vu quelques programmes immobiliers qui ont eu dans l'investissement commercial au Royaume-Uni qui ont chuté juste après le vote. Mais en fait, depuis, rien ne se passe là aussi. Et je regardais encore hier les dernières évolutions des indices des prix de l'immobilier. Ils sont tous à la hausse. Donc, on est toujours sur une hausse des prix de l'immobilier au Royaume-Uni. De l'ordre de 3 à 4%, on reste toujours avec des prix de l'immobilier qui sont historiquement élevés.
Il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé aussi, c'est la consommation des ménages qui est restée assez stable malgré toutes les incertitudes. Finalement, les Britanniques continuent d'avoir une certaine confiance. Cette bonne santé économique, elle est aussi le signe d'une certaine résilience de l'économie britannique qu'on a d'ailleurs vu très régulièrement dans l'histoire.
Oui, c'est vrai. Et puis, pour répondre peut-être précisément sur votre question sur la consommation, en fait, la raison pour laquelle on attend un ralentissement de la consommation des ménages, c'est via l'effet de la baisse de la livre qui augmente le coût des produits importés et qui, de fait, réduit le pouvoir d'achat des ménages.
On commence seulement
à le voir. Hein. Donc la consommation a ralenti au premier trimestre de cette année, mais est restée effectivement très dynamique jusqu'à la fin 2016.
On va essayer justement de comprendre cette mécanique qui est peut-être déjà en train de se mettre en place. Mais Anne-Laure Delatte, je voudrais vous entendre aussi peut-être sur ces prévisionnistes qui, je le disais, se sont peut-être trompés. Comme d'ailleurs en 92, quand la Grande-Bretagne était sortie du système monétaire européen, où là aussi on nous avait annoncé une crise économique qui n'avait pas eu lieu. Est-ce qu'il faut voir le signe finalement d'une forme d'instrumentalisation politique des conséquences économiques du Brexit? Ça a beaucoup été pointé du doigt au moment de la campagne.
Alors oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, il faut prendre en compte le contexte international. Brexit d'abord, Trump après. On nous a dit à chaque fois que ce serait catastrophique et ce faisant, on a probablement fait le lit de l'extrémisme et du populisme. Donc, effectivement, crier au loup n'a probablement pas donné de crédibilité aux économistes, aux prévisionnistes et aux institutions en général. Maintenant, je crois qu'il est important de comprendre qu'on n'a pas encore appuyé sur le bouton. Le Brexit, finalement, c'est quoi ? C'est la sortie d'un accord, d'un super accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Europe, l'Union européenne. Ce bouton, on va l'actionner bientôt en fonction le scénario de sortie, il n'est absolument pas connu encore aujourd'hui. On ne sait pas si on va faire un soft ou un hard Brexit. On a plusieurs scénarios possibles. Donc, je crois que le premier enseignement, c'est que en macro, d'un point de vue macroéconomique, évidemment qu'on n'a pas eu d'effet puisqu'on n'a pas coupé ces accords commerciaux. Donc, il n'y a aucune raison que les échanges commerciaux, pour l'instant, se soient effondrés comme on le prévoyait. Deuxièmement, sur le change, effectivement, il y a eu une baisse du change qui probablement a eu des effets positifs sur les exportations britanniques. Donc, ça a dû compenser certaines conséquences des incertitudes. Et troisièmement, sur les marchés financiers. Alors, c'est compliqué parce que la bourse, on a l'impression qu'ils décident tout, qu'ils savent tout en avance, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour Trump, on a la même chose. Finalement, alors pour Trump, c'est même pire, on n'a pas du tout d'effondrement. Le Brexit a fait peur aux investisseurs parce qu'ils n'aiment pas l'incertitude. Mais finalement, bon, ben c'est dans longtemps. Or, la bourse, c'est un temps court, premièrement. Et surtout, Theresa May a annoncé qu'elle ferait de la concurrence fiscale, comme Trump. Donc, dans les deux cas, les investisseurs financiers, ce qu'ils comprennent, c'est qu'on va avoir une baisse de l'impôt sur le revenu, sur les sociétés, sur le profit des sociétés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Or, il faut vraiment comprendre que la bourse est très court-termiste. On m'annonce quelque chose de très négatif, mais finalement, ça va être compensé.
Oui, mais voilà. Sur l'aspect justement de la bourse, Catherine Mathieu, par exemple, et des baisses de taux d'imposition annoncées, c'était déjà le cas du gouvernement de David Cameron. Hein. Ces baisses d'imposition, elles étaient déjà là. Les Britanniques avaient déjà mis en place cette politique de de concurrence fiscale pour continuer à attirer des investisseurs au Royaume-Uni. Et donc, en fait, Theresa May ne fait que poursuivre ce qui avait déjà été mis en place par le précédent gouvernement. C'est différent de ce qui se passe aux États-Unis où, effectivement, Donald Trump a axé une partie de sa campagne sur le fait d'avoir une politique très en faveur des entreprises. Et donc, l'an dernier, quand il y a eu le vote en faveur du Brexit, les entreprises savaient déjà quelle serait la politique menée par George Osborne et David Cameron s'ils restaient en place après le vote. Donc, c'était pas une nouveauté. Et quand même, à ce moment-là, la plupart des investisseurs avaient peur ou faisaient semblant d'avoir peur des conséquences sur le vote. Or, en pratique, effectivement, ils n'ont pas modifié leur décision d'investissement, du moins pas à ce jour.
Catherine Mathieu, vous l'avez dit, l'un des éléments particulièrement inquiétants, c'était cette baisse de la livre sterling qui, je crois, c'était 1,10 euros en octobre dernier. C'était son plus bas niveau. C'est vrai que depuis, elle est remontée. La baisse de la livre, elle est effectivement pas très bonne pour les importations. En revanche, c'est favorable pour le coup aux exportations. C'est ce que disait, ce que rappelait Anne-Laure Delatte. Au bilan, est-ce que le pays peut être gagnant? Est-ce que les importations peuvent combler l'augmentation des prix des produits importés?
C'est-à-dire qu'on avait, avant le vote en faveur du Brexit, selon moi, un taux de change de la livre qui était surévalué. On voyait clairement depuis plusieurs années une baisse des parts de marché à l'exportation britannique. Et donc, en fait, la baisse de la livre qui arrive après ce vote en faveur du Brexit ramène le taux de change de la livre à un niveau plus soutenable. Donc, cela va permettre aux exportateurs, on le voit déjà d'ailleurs effectivement dans les chiffres, de regagner des parts de marché à l'exportation. Après, la question, ça va être l'ampleur de ces gains de parts de marché. Et là, sur cette question, tous les économistes ne sont pas d'accord parce qu'on a constaté au cours des années les plus récentes qu'il y avait de moins en moins, quand on observe sur données économétriques, de moins en moins d'effets des prix sur les exportations et sur les échanges extérieurs en général. Et donc la question, ça va être, est-ce qu'effectivement, cette baisse de la livre va suffire à compenser l'effet défavorable sur les importations et la consommation? Moi, je pense que oui.
Et la question, c'est aussi de savoir ce que ça va avoir comme effet sur l'inflation.
Oui.
C'est un environnement favorable à l'augmentation de l'inflation et c'est déjà en train de poindre.
Et il y a... le timing n'est pas le même pour les exportations et pour l'accélération de l'inflation. L'accélération de l'inflation, on l'a vu au Royaume-Uni, on est passé d'une inflation qui était proche de zéro en juin 2016 à une inflation de 2,7% maintenant. Bon, l'inflation a aussi accéléré ailleurs dans la zone euro. On a une inflation aujourd'hui qui est de 1,9% dans la zone euro. Donc on est quand même un peu partout dans l'Union européenne sur des rythmes d'inflation qui accélèrent, mais on voit effectivement une accélération plus rapide de l'inflation au Royaume-Uni que dans la zone euro.
Ce qui est un signe inquiétant parce que l'inflation pourrait en retour faire baisser la consommation et là on rentre dans un cercle vicieux. Anne-Laure Delatte.
Alors là on est en train de parler d'inflation, de variation de change, etc. comme si on était dans une situation normale. Mais je crois que vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où les négociations auront abouti et qu'on aura appuyé sur le bouton, c'est là qu'il va se passer des choses. On peut avoir tous les raisonnements, effectivement la baisse du change va avoir des effets sur les importations, exportations, mais maintenant, à la date T, la sortie de l'accord va avoir des effets sur le commerce et des effets retours sur l'ensemble des agrégats macroéconomiques. Donc, alors moi, je ne suis pas prévisionniste, mais ce que j'ai lu, c'est que en situation de hard Brexit, c'est-à-dire dans un Brexit qui ressemblerait à... le Royaume-Uni devient quasiment comme les États-Unis, c'est-à-dire pas du tout comme la Norvège ou la Suisse qui ont des accords un peu privilégiés avec l'Union européenne. Si vraiment le Royaume-Uni s'en sortait mal ou sortait par le bas, moi je lis dans les simulations du CEPI 2,5% de points de PIB en moins dans 10 ans.
On va voir, Anne-Laure Delatte, ce qui se passera à l'issue des négociations, dans les deux cas, s'il y a un accord et s'il n'y en a pas, parce que les deux sont pour l'instant possibles et il y a probablement d'autres scénarios qui peuvent aussi se dessiner qu'on n'imagine pas forcément. Mais je voudrais qu'on reste un instant quand même sur l'état des lieux de l'économie britannique aujourd'hui. Pour le moment, Catherine Mathieu, la croissance permet de limiter aussi le déficit public, parce que ça, c'est une question qui est importante. La Grande-Bretagne, aujourd'hui, a un problème de dépenses publiques. Si la croissance baisse, ce qui est possible au regard de l'analyse qu'on vient d'effectuer avec vous là, là le déficit risque de s'accroître. Il y a un vrai danger pour la Grande-Bretagne parce que derrière, évidemment, il y a un problème au niveau des investissements. La capacité de relance, capacité de réorienter une économie qui de toute façon va être bouleversée. On ne sait pas dans quelle mesure, dans quel secteur, etc. Mais qui de toute façon aura besoin d'être relancée et réorientée.
Oui, effectivement, là, aujourd'hui, l'économie britannique continue à croître à un rythme de 2% en rythme annuel, même si effectivement on a eu un ralentissement de la croissance au premier trimestre avec une croissance qui n'a augmenté que de 0,3% sur un trimestre. Mais avec une croissance de 2% par an, il est bien sûr beaucoup plus facile pour le gouvernement britannique de continuer à réduire les déficits publics, ce qui fait partie en particulier de l'objectif des conservateurs et de Theresa May, de ramener les déficits publics qui sont actuellement, du moins qui étaient en 2016, de 3% du produit intérieur brut, et de les ramener à l'équilibre d'ici 2018-2019. Alors bien sûr, si la croissance reste là, ça sera plus facile pour le gouvernement britannique de réduire ses déficits. Et aujourd'hui, enfin, si on regarde le programme des conservateurs, on voit que de fortes baisses de dépenses publiques sont annoncées. Elles sont annoncées, mais en ayant un scénario macroéconomique qui reste celui d'une croissance relativement soutenue. On sait aussi que le gouvernement conservateur est très pragmatique, donc n'a pas hésité déjà depuis plusieurs années à réduire moins les dépenses publiques que ce qu'il annonçait pour soutenir la croissance. Et donc, je pense qu'en tout cas, si Theresa May sort victorieuse des élections, il y aura probablement moins de restrictions budgétaires que ce qui est annoncé aujourd'hui pour soutenir l'économie britannique. Mais effectivement, tout ça, ça peut se faire si l'économie britannique ne s'effondre pas.
Oui, donc, pour le moment, on est quand même dans une stratégie d'austérité. C'est ce qu'avait dit Philip Hammond, qui est le ministre des Finances de Theresa May, quand il avait présenté son budget en octobre dernier. Donc clairement, la stratégie de Theresa May aujourd'hui, c'est de réduire les dépenses, de réduire les dépenses sociales.
Alors la stratégie est d'abord de réduire le déficit public pour le ramener à l'équilibre, en même temps de baisser les impôts pour continuer à attirer des entreprises en particulier, et puis pour permettre donc de ramener ces déficits à l'équilibre, de baisser les dépenses publiques. Et c'est sur cet angle-là que Theresa May a été attaquée sur toute la campagne, parce que cela suppose des baisses de dépenses publiques, en particulier dans le secteur social et dans le secteur de la santé, éventuellement dans le secteur de la sécurité, ce dont on parle depuis deux jours de plus en plus dans la campagne. Et donc effectivement, cette question de la baisse des dépenses publiques nécessaires pour ramener les déficits à l'équilibre se posera si Theresa May est élue. Par contre, dans le programme des travaillistes, on a une logique tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on augmente les impôts pour financer des dépenses sociales et on réduit de façon plus lente les déficits publics. Oui, donc on a deux programmes différents.
Il allait rompre avec l'austérité. Alors qu'est-ce que le Brexit maintenant pourrait changer au système financier britannique, mais aussi européen et même mondial? Anne-Laure Delatte, vous avez vous préparé une note, je crois, pour le Conseil d'analyse économique sur ce sujet. Je rappelais tout à l'heure que le secteur financier représente quasiment 15% du PIB britannique. Souvenez-vous, janvier dernier, le directeur général d'HSBC annonçait que la banque allait déplacer de Londres vers Paris une partie de ses activités.
Londres va rester un centre financier mondial. Et je crois que l'impact du Brexit sur les services financiers en termes de recettes sera positif d'ici 2 ou 3 ans. Je ne vois pas le marché de change déménager, le marché de capital investissement ou le marché des obligations déménager. Ce qui va se passer, c'est que ce sont les activités spécifiquement couvertes par la législation européenne qui vont devoir partir. À HSBC, cela représente environ 20% des recettes.
Stuart Gulliver, donc directeur général d'HSBC, c'était en janvier dernier, juste après le discours de Theresa May qui confirmait une sortie du marché unique, ce qui actait de fait la perte du passeport financier. Cette banque HSBC, qui est l'une des plus grosses banques d'Europe, peut-être la plus grosse banque d'Europe, qui annonce le déplacement 1 millier d'emplois de Londres vers Paris. Là aussi, Anne-Laure Delatte, on pensait qu'il y aurait un effet d'entraînement. Or jusqu'ici, il n'y a pas eu tellement de nouvelles annonces.
Mais encore une fois, on n'a pas appuyé sur le bouton, donc tout est en préparation.
Bah, ça suffit quand même pour HSBC. Hein.
Oui, qui prépare, mais on est en préparation. Et alors le consensus, il n'y a pas vraiment de consensus, mais on estime à peu près à 30 000 emplois la perte liée au Brexit sur le secteur financier anglais, britannique, la perte directe. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, Londres est la première place financière en Europe et dans le monde. Et aujourd'hui, le risque, c'est qu'ils vont perdre leur fameux passeport européen.
Alors expliquez-nous ce que c'est, ça, c'est très important. En fait, c'est les passeports, pardon, parce qu'il faudrait, ils sont plusieurs en réalité. Expliquez-nous.
Oui, alors en finance, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça donne l'autorisation aux sociétés britanniques de s'implanter dans l'Union européenne et aussi de faire des exportations de services, c'est-à-dire prêter de façon transfrontalière à nos entreprises. Le Royaume-Uni en a largement profité, puisque bon, l'avantage comparatif du Royaume-Uni s'est construit dans les années 70, hein, avec une bourse, enfin un marché boursier et des infrastructures financières extrêmement développées, qui sont développées au départ autour du change. Aujourd'hui, on a une industrie financière extrêmement sophistiquée au Royaume-Uni, à Londres en particulier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les entreprises du monde entier, les entreprises du secteur financier, banques, assurances, fonds de pension, s'installent Londres pour ensuite opérer sur le reste de l'Union européenne et en particulier sur le marché de la zone euro. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que via Londres, on obtient un passeport qui permet de ne pas subir des tarifs, des barrières à l'entrée du secteur de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, avec le scénario hard ou soft Brexit, le Royaume-Uni va perdre plus ou moins de capacité à rentrer facilement sur le marché. Donc la question, c'est de savoir si ça va être un hard Brexit, c'est-à-dire pays tiers, ou alors si ils arrivent à négocier de garder certains avantages, comme la Norvège, par exemple, ou la Suisse, qui serait un modèle intermédiaire.
La question aussi, Anne-Laure Delatte, c'est que le Brexit, pour le coup, ne va rien changer pour toutes les activités de ces établissements qui sont hors de l'Europe. Or, cette part de l'activité, elle est quand même très importante. Est-ce que finalement, l'activité de la City ne pourrait pas être assez peu atteinte par cette sortie de l'Union européenne parce que à l'extérieur, ça va très bien et ça pourrait aller de mieux en mieux?
L'Union européenne est le premier marché pour les sociétés, pour le Royaume-Uni, en termes financiers. Donc absolument
oui,
pas.
Donc la réponse est assez claire. Très bien. Merci Anne-Laure Delatte. La question des exilés de la City. Parce que les principaux établissements bancaires internationaux doivent choisir, a priori, une nouvelle implantation au sein de l'Union européenne. On l'entendait avec HSBC, c'est déjà en train de se produire. Et il y a une bataille extrêmement virulente entre les différentes villes européennes pour tenter de récupérer justement une partie de ces activités, de ces services qui quittent Londres. Francfort, Paris, Dublin, mais aussi Berlin, Amsterdam, tout le monde se positionne. Quelles sont les villes là aujourd'hui, les mieux placés pour les accueillir et quelles sont les stratégies qui sont mises en place précisément pour ce faire?
Alors, en fait, ce qui se passe, ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que les sociétés britanniques étaient installées, par exemple, à Paris. À Paris, il faut savoir que 40% des filiales étrangères sont du secteur financier sont britanniques. Donc, il y a une énorme présence en Europe, à Paris en particulier. Elles font aussi beaucoup d'exportations. De prêts transfrontaliers. Pourquoi elles font ça? En fait, elles faisaient de l'arbitrage réglementaire jusqu'ici, c'est-à-dire que avec le passeport européen, elles avaient le droit de venir faire des transactions du business avec nous, mais en même temps, elles bénéficiaient de leur propre réglementation, de la réglementation britannique qui est un peu plus favorable aux entreprises que la nôtre. Alors elles vont perdre ça aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on va réagir? Enfin comment est-ce qu'elles vont réagir? Est-ce qu'elles vont en fait il y a deux façons de voir. Est-ce qu'elles vont aller vers le continent européen et à ce moment-là dans quelle ville? Ou alors est-ce qu'elles vont développer un autre type de business sur les villes?
Ça va dépendre des propositions qu'on leur fait.
Et ça va dépendre,
des propositions de Paris, ça va dépendre des propositions de Berlin. Et là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises sur la table.
Et ça va dépendre, encore une fois, de l'issue de la négociation. C'est-à-dire que, est-ce que je développe quelque chose d'autre ou est-ce que je reste quand même attiré par le marché européen? Alors, aujourd'hui, comment est-ce que la place française se situe par rapport aux autres? Vous avez cité tous nos concurrents. Ce qui se passe, c'est que la France, aujourd'hui, Paris, c'est Londres en termes d'emploi dans le secteur financier. En revanche, c'est très loin derrière en termes d'attractivité de sociétés étrangères. on ressemble plutôt à Francfort de ce côté-là. Mais en un petit peu moins que Francfort. En réalité, on est huitième en Europe en termes d'attractivité de filiales étrangères et d'emploi. Quand on regarde les classements de places financières internationales en termes d'infrastructures, on est 29e dans le monde, là où l'Allemagne est dans les 20e, et on est 7e en Europe.
Mais si attendez, au-delà de ces classements, Anne-Laure Delatte, pardon, moi ce que je veux savoir c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France ? Et on sait que l'arrivée d'Emmanuel Macron a redonné beaucoup d'espoir justement à tous ceux qui mènent campagne pour récupérer une partie de l'activité londonienne. Moi, je veux savoir ce qu'on propose aujourd'hui à ces exilés de la City. Je veux savoir aussi ce que Berlin propose. Parce qu'il y a par exemple un proche d'Angela Merkel qui récemment a déclaré que son pays était prêt à assouplir les conditions d'embauche et de licenciement des banquiers pour tenter de les inciter précisément à installer leurs sièges sociaux à Francfort. On voit qu'il y a une vraie bataille. On déréglemente, on libéralise, on fait sauter les contraintes. Le droit du travail, visiblement, on est prêt à le décapiter pour attirer les banques.
Alors, on est surtout dans des effets d'annonce aujourd'hui. Hein. On
absolument, mais je voudrais savoir quelles sont ces annonces précisément.
Je vous parlais des classements parce que je voudrais juste finir sur une chose, c'est que ce qu'on constate, nous, quand on regarde la France par rapport à l'Allemagne et aux concurrents, c'est qu'on est moins attractif que ce qu'on devrait l'être. Mmh. C'est-à-dire que si on calcule tous les indicateurs, on devrait attirer plus de filiales étrangères que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on essaye de comprendre ce qui va et ce qui va pas en France. Alors en fait, comme d'habitude, on souffre d'une réputation dans l'environnement économique qui n'est pas très positive. En revanche, on compense par alors qualité de vie, on en parle toujours, mais surtout une démographie plutôt dynamique, un bon capital humain et on est un bon hub au niveau des transports. Par exemple, on est beaucoup mieux placé que Francfort pour des gens qui voudraient faire aller à Londres.
Vous êtes en train de nous dire que les banquiers de Londres vont venir à Paris parce qu'ils seront contents de prendre les bus et les métros de la RATP ?
Non, ils vont venir à Paris plus facilement parce que Charles de Gaulle est bien situé dans le hub international. Alors, mais d'abord,
c'est pas là que ça se joue. On sait bien que c'est sur le droit du travail. On sait bien que c'est sur la fiscalité. C'est là où la concurrence s'opère. Non ?
Non, mais c'est bien sûr là. Je suis très d'accord avec vous, Florian, que la question se pose. Moi, je trouve ça quand même assez terrible. On est en train de reprocher, une certaine partie des Européens, de l'Union européenne, de quitter l'Union européenne parce que le Royaume-Uni voulait profiter davantage le beurre et l'argent du beurre, etc. Et que faisons-nous à l'intérieur de l'Union européenne ? Nous proposons actuellement des mesures pour attirer ces institutions financières qui sont actuellement à Londres et pour qu'elles viennent s'installer à Paris. On est en train de changer la fiscalité des revenus des salariés qui travaillent dans le secteur de la finance, de la baisser en France. Toutes les capitales européennes développent des mesures pour attirer les établissements financiers. Donc en fait, on est en train de mettre en place, par exemple, le fait de réduire l'imposition sur les travailleurs, sur les traders, sur ceux qui ont les revenus les plus élevés, bien sûr. Ça existe en France.
Cette
concurrence fiscale qui se met en place à l'intérieur de l'Union européenne, elle se met véritablement en place depuis plusieurs mois. Chaque pays essaye d'attirer, du moins un certain nombre de capitales, essaye d'attirer les établissements financiers de Londres, et pas uniquement parce que, comme à Paris, Paris est une belle ville, mais parce qu'il y a aussi d'autres éléments derrière.
D'accord. Alors je vais reprendre ça parce que j'ai l'impression de ne pas du tout avoir été claire sur mon exposé. Ce que je voulais justement mettre en évidence, c'est que on souffre en France d'un effet réputation qui n'est pas toujours basé sur des données et sur des chiffres. Et vous vous jetez tous les deux sur les aspects fiscaux et droit du travail, alors qu'en fait, en réalité, on n'est pas sûr que ça soit ça qui n'attire pas, qui explique le manque d'attractivité en France. Il y a probablement d'autres éléments, comme par exemple, est-ce qu'on parle bien anglais ? Est-ce que mon conjoint va trouver un job quand je m'installerai à Paris, et est-ce que je pourrais, sans parler bien français la première année, m'en sortir ? Alors, d'un point de vue fiscal, moi je voudrais reprendre les choses, on n'est que dans des effets d'annonce, il n'y a pas de mesures qui ont
bien
été
sûr,
prises.
Bien sûr, on est dans des effets d'annonce, mais il y a une concurrence entre Berlin et Paris, très clairement. Mais Berlin annonce, nous répondons, et notamment Christian Noyer qui est mandaté pour justement défendre les couleurs de la France auprès des acteurs financiers.
Oui, mais en fait, il faudrait quand même faire attention à ce qu'on dit, qui ne se joue pas sur le plan fiscal. Attention, il y a aussi un effet, il y a aussi une annonce de Angela Merkel qui... et pour une option, les salaires au-dessus de 100 000 euros n'auraient pas le droit à la protection sociale allemande. Donc attention, on n'est pas et on ne veut pas rentrer. En tout cas, ça n'est pas la tendance, moi, que j'observe, qui est de rentrer dans une concurrence fiscale qui a été déclenchée par Theresa May. Et en tout cas, elle n'y est pas pour l'instant. Et il faut pas jouer ce jeu-là dans les médias. Non, mais, pour l'instant, on n'a pas
Theresa
pris
May
de mesure.
N'a pas déclenché.
Catherine Mathieu, et puis ensuite on reviendra justement sur Theresa May et les négociations.
Si,
je vous en prie,
si effectivement on repart du point de départ, ce vote des Britanniques en faveur du Brexit, en fait, le point de départ quand même, c'est, enfin, pour Theresa May, c'est de dire nous souhaitons garder l'accès au marché unique et les pays de l'Union européenne répondent à Theresa May, si vous décidez de sortir, il est hors de question que vous gardiez cet accès au marché unique et vous risquez de perdre le passeport financier. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, Anne-Laure, pour l'instant, on n'a pas appuyé sur le bouton et on ne sait pas quels sont les accords qui vont être mis en place, en particulier en ce qui concerne le domaine financier. Il y a des discussions actuellement aussi pour mettre en place un système d'équivalence. Et effectivement, où les établissements financiers britanniques pourraient continuer à exercer leurs activités avec les pays de l'Union européenne. Et ça aussi, c'est une chose possible. Parce qu'il faut bien voir le degré d'intégration très important en termes financiers et commerciaux entre les pays de l'Union européenne à 27 et le Royaume-Uni. Et donc, on peut avoir, et c'est justement ce qui va se discuter dans les années qui viennent, plusieurs scénarios qui se mettent en place. Et un de ces scénarios pourrait être celui où finalement, les établissements financiers britanniques gardent une équivalence, ce qui pourrait être, enfin, sur le plan économique, ce qui serait d'ailleurs le plus rationnel.
Anne-Laure Delatte, vous voulez dire un petit mot ?
Alors, en fait, on a parlé, oui, très très rapide, on a parlé des banques qui viendraient s'installer sur le continent. Il y a deux choses, enfin, il y a une chose très importante à avoir en tête, c'est que, de façon très ironique, le régulateur bancaire européen est à Londres
Absolument.
Aujourd'hui. Et donc, il va bien falloir le déménager, celui-là. Et là, là, il y a une bataille, pour le coup, entre l'Allemagne, le Luxembourg, et en particulier l'Allemagne et le Luxembourg. Et là, je crois que c'est important, là, de jouer notre rôle. Le régulateur bancaire européen qui se trouverait au Luxembourg, alors que le Luxembourg est le paradis fiscal au cœur de l'Europe, ça, c'est choquant.
UK Calling, c'est notre série cette semaine consacrée à la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le Brexit, des négociations à haut risque pour l'économie britannique. Anne-Laure Delatte et Catherine Mathieu sont avec nous ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Theresa May, when did you realize that you
Quand avez-vous réalisé que vous aviez la mauvaise réponse à la plus grande question politique de notre époque ?
Je suis tentée de vous demander, Jérémy, à quoi vous pensez ? Vous parlez du Brexit ?
Bien sûr.
En
mars dernier, vous aviez dit que nous serions plus en sécurité, plus prospères, plus influents, dans ces termes exacts, si nous restions dans l'Union européenne. Et maintenant, vous voulez en sortir.
J'ai également dit que le ciel ne nous tomberait pas sur la tête si nous quittions l'Union européenne.
Donc vous avez changé d'avis ?
Nous avons donné le choix à la population.
Vous avez changé d'avis ?
Je vais vous répondre.
Avez-vous changé d'avis ?
Je pense qu'il y a de grandes opportunités.
Avez-vous changé d'avis ?
Jérémy, je sais que vous utilisez cette tactique et que vous voulez que je réponde.
J'essaye juste d'avoir une réponse. Vous avez juste à dire oui ou non. Je n'ai pas changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Dites ce que vous voulez. Peut-on aborder un autre sujet sur lequel vous avez changé d'avis ? Rien qu'en mars concernant le budget, vous avez proposé d'augmenter l'impôt sur l'assurance pour les auto-entrepreneurs. Mais en une semaine, vous avez changé d'avis. Est-ce que vous confirmez cela ?
Oui, je confirme. Et nous avons clairement dit à l'époque...
Ce que je veux dire, c'est que si j'avais un siège à Bruxelles et que je devais négocier avec vous, je me dirais que vous êtes une vantarde qui s'enfuit à la première difficulté.
Ah, un échange très très vif entre Theresa May et un journaliste de la chaîne Channel 4, Jeremy Paxman. C'était le 29 mai dernier qu'il l'avait un petit peu repoussé dans ses retranchements, lui reprochant de changer d'avis régulièrement et notamment sur le Brexit. Il faut rappeler qu'elle a été opposée avant de considérer après évidemment le choix de ses concitoyens, bien sûr, mais que ça pouvait constituer une opportunité pour son pays et décider bien sûr de conduire ces négociations. Catherine Mathieu, le 19 juin, c'est maintenant dans quelques jours, ces négociations vont officiellement démarrer. Il y a eu beaucoup de flou autour de la manière dont Theresa May compte organiser les modalités finalement de la sortie de l'Union européenne, hard Brexit, soft Brexit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'elle veut ?
En fait, Theresa May a fait un discours en janvier dernier à la Lancaster House où elle a posé clairement, je pense, ce qu'elle souhaite. En fait, elle souhaite qu'il y ait un partenariat qui soit mis en place entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et que le Royaume-Uni garde, en fait, sans le dire, puisque les pays de l'Union européenne ne le souhaitent pas, que le Royaume-Uni garde l'accès au marché unique européen. En fait, Theresa May, pour moi, représente tout à fait ce qui est la vision majoritaire des Britanniques depuis leur entrée en 1973 dans la communauté européenne. En fait, les Britanniques sont entrés dans un marché unique, mais ils ne sont pas entrés dans une Europe politique, ils ne sont pas entrés avec l'idée d'aller vers davantage d'intégration économique, politique. Et en fait, Theresa May, elle reste fidèle à ce modèle britannique. Au cours du temps, l'Union européenne a évolué, du moins à l'intérieur de la zone euro, les pays ont évolué et souhaitent aller vers davantage d'intégration monétaire, déjà. Ça a commencé avec la création de la zone euro. Le Royaume-Uni n'a pas souhaité abandonner sa souveraineté monétaire, a gardé la livre. Le Royaume-Uni a gardé sa souveraineté budgétaire. Le Royaume-Uni ne souhaite pas aller vers une intégration européenne, vers une intégration politique. Et donc, Theresa May représente tout à fait cette vision britannique à l'intérieur de l'Union européenne. Et elle se trouve aujourd'hui en face d'une Union européenne qui a des objectifs politiques différents en matière d'intégration. Donc le souhait de Theresa May, c'est garder un partenariat commercial ouvert avec les autres pays de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, pour moi, elle est tout à fait claire. Et ce qu'on appelle un hard Brexit, en fait, chez nous, sur le continent, c'est simplement le fait que les pays de l'Union européenne aient dit non à Theresa May, vous ne pourrez pas garder l'accès au marché unique si vous quittez l'Union européenne.
Anne-Laure Delatte, même question. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des modalités de sortie de l'Union européenne du point de vue de Theresa May ? Et peut-être aller un peu plus loin, parce que Theresa May a plusieurs fois répété qu'elle était prête à quitter la table des négociations, dénonçant même parfois une forme d'agressivité de ses partenaires européens. On a l'impression que peut-être que la stratégie de Theresa May, finalement, c'est de ne pas obtenir d'accord. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette idée, Anne-Laure Delatte.
Alors, il y a effectivement deux mouvements au Royaume-Uni sur cette question. Theresa May représente le mouvement le plus dur. Et quand vous parlez d'un manque de volonté politique de s'intégrer à l'Union européenne, on peut refaire un peu l'histoire aussi. Jusqu'en 92, le Royaume-Uni était dans les accords d'introduction de la monnaie unique. C'est une crise de change qui va leur faire changer d'avis en 92-93. Certes, les Italiens n'ont pas changé d'avis, les Espagnols n'ont pas changé d'avis à ce moment-là, mais peindre le Royaume-Uni comme le pays qui n'a jamais voulu s'intégrer politiquement, je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré. Maintenant, Theresa May, les idées ont la vie dure en France sur le Royaume-Uni. Maintenant, Theresa May, elle représente effectivement cette conception dure. Elle est Tory, elle est du côté des conservateurs et elle est prête à faire des vrais sacrifices en termes de, vous le disiez tout à l'heure, de baisse de la fiscalité et de baisse de la protection sociale pour compenser les coûts d'un hard Brexit.
Anne-Laure Delatte, il n'y a pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe ?
Sur les sociétés financières, sur la finance ?
Sur les accords économiques et commerciaux, est-ce qu'ils continuent de s'appliquer ? Est-ce qu'ils s'arrêtent ? Et qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ce qui se passe, ce qu'on peut dire économiquement, c'est que ça coûte 2,5% du PIB en 10 ans. En 2030, il y aura une perte de 2,5% d'après les calculs, on va dire allez, entre 2 et 3% d'après les calculs du CEPI sur le hard Brexit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une année de croissance. On a perdu, le Royaume-Uni aura perdu l'équivalent d'une année de croissance de PIB en 10 ans.
Catherine Mathieu.
Oui, je dirais que justement, Theresa May, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, Anne-Laure, n'est pas dure, justement. Et chez les conservateurs, il y a toujours des positions très différentes sur le Brexit. Certains étaient pour la sortie du Royaume-Uni européenne, d'autres pas. Chez les travaillistes aussi. En fait, cette question du Brexit, elle divise les partis politiques au Royaume-Uni. Et Theresa May, en fait, on lui a reproché l'an dernier d'avoir fait une campagne très molle en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et en fait, en disant, mais dans le fond, elle est probablement pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et je pense que cette question du souverainisme est quelque chose qui est très ancré dans la population britannique, et je pense pas que ce soit une vue française, ou c'est quelque chose qui est vrai, et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait respectable. Un pays peut décider de rester souverain, il y a plusieurs choix possibles. Alors maintenant, sur les effets, effectivement, s'il n'y a pas d'accord, je pense que Theresa May souhaite qu'il y ait un accord. Parce que les Britanniques sont vraiment très pragmatiques. Et il y a cette forte intégration des échanges commerciaux financiers avec l'Union européenne. En gros, ça représente la moitié de leurs échanges aujourd'hui. Donc, ils souhaitent avoir un accord commercial avec l'Union européenne.
Oui, mais on a l'impression que ce n'est pas prioritaire, que d'une certaine manière, la Grande-Bretagne a déjà décidé de s'ouvrir au reste du monde, de devenir vraiment mondiale, pour reprendre la formule précisément de Theresa May, et d'aller voir ailleurs, aux États-Unis, en Asie, etc. etc.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut quand même peut-être aussi dire qu'au lendemain du vote sur le Brexit, à l'intérieur de la zone euro, par exemple en France, il y a eu des déclarations de François Hollande disant on va être très dur avec nos amis britanniques. Et ça s'est généralisé aussi dans d'autres capitales européennes, en particulier en Allemagne. Et donc, ça me semble, enfin, quand on est à un moment où on lance des négociations, ça me semble assez logique que Theresa May réagisse en disant « Nous sommes un pays ouvert sur l'ensemble du monde », ce qui est d'ailleurs toujours vrai.
Et on le sera encore plus. On revient à une doctrine libre-échangiste, d'une certaine manière.
Voilà. Et c'est en ça qu'elle a une dimension qui est quand même assez particulière, Theresa May. On la compare souvent à Donald Trump, mais de ce point de vue-là, elle est complètement différente parce qu'elle est le Royaume-Uni. Elle doit être ouverte sur le vaste monde et devenir un champion de la globalisation. Donc c'est une vision très très ouverte.
Elle a déjà annoncé qu'elle mettrait en place de nouveaux traités commerciaux avec les États-Unis,
qui sont
déjà quasiment engagés, avec la Chine, tout le reste de l'Asie, etc. etc.
Et d'ailleurs, aujourd'hui...
Reste
d'ailleurs,
à voir si ça compensera les effets néfastes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le principal excédent commercial britannique, il est vis-à-vis des États-Unis. Les Britanniques ont un déficit commercial vis-à-vis de la zone euro. Donc en fait, d'un point de vue pratique, les entreprises ont intérêt à avoir de bons accords avec les États-Unis et puis avec des zones de croissance qui sont plus dynamiques que la zone euro.
On va revenir sur le vote du Brexit, tenter de comprendre ce choix à l'aune du territoire et de ses fractures socio-économiques. On va retrouver Marc Belloni, qui est à Londres en ce moment, qui est géographe, maître de conférence à l'université de Lorraine. Vous avez publié, Marc Belloni, un article paru dans la revue Hérodote intitulé « Comprendre le vote pour le Brexit, de l'utilité d'une analyse territoriale ». Alors vous y rappelez bien sûr qu'on évoque souvent la dimension sociale et identitaire, mais qu'il faut ajouter à tout ça une analyse territoriale. Et dès lors, on voit qu'il n'est pas du tout évident de lier la question de la pauvreté, du déclassement au vote pour le livre. Le livre n'est pas seulement le vote des exclus.
Il faut faire attention dans la manière dont on peut analyser ce vote pour le Brexit. On a beaucoup dit que c'était un vote qui était une forme de révolte contre la mondialisation, contre cette Europe qui apparaît technocratique, très libérale, etc. Mais il y a eu plusieurs raisons qui ont été évoquées dans toutes les analyses pour expliquer ce vote pour le Brexit. Et en fonction des territoires, on va avoir une influence plus ou moins forte de telle ou telle raison. Dans le Nord ou dans les territoires, dans les vieux territoires industriels qui subissent encore beaucoup de difficultés sociales, il y a toujours cette forme de rejet, cette forme de rejet qu'on peut avoir dans les vieux territoires britanniques, les vieux territoires industriels britanniques, comme on peut avoir aussi dans les vieux territoires industriels en France ou même aux États-Unis, pour un vote, on va dire, populiste. Donc là, c'est un vote pour le Brexit de rejet contre cette mondialisation, contre cette libéralisation. Mais on peut aussi trouver un vote pour le Brexit dans des territoires qui sont beaucoup plus prospères, notamment du Sud. Et là, d'autres raisons peuvent être évoquées. Il y a notamment un ancrage, un très vieil ancrage de l'euroscepticisme britannique, qui existe depuis l'origine même de l'Union européenne, enfin de la CE, et du potentiel de rentrer dans l'Union européenne, dans la CE à l'époque.
Oui, et puis inversement, on a certains territoires qui sont marqués par une certaine pauvreté, mais qui ont largement voté pour le maintien dans l'Union européenne. C'est le cas par exemple des centres-villes de Liverpool ou de Manchester.
Oui, voilà, ou dans certains territoires de Londres, hein, du Grand Londres, il y a aussi des quartiers qui sont...
Oui, à l'Est notamment,
pauvres, hein, parmi... Oui, dans le centre-est de Londres, oui, il y a des quartiers qui sont très pauvres, mais qui ont voté pour le maintien dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu la cartographie du vote pour le Leave, il y a une certaine forme d'homogénéité quand même dans ce vote. Il n'y a pas de rupture territoriale qui est très franche. On ne peut pas dire que telle région a massivement voté pour le Leave et telle autre région a massivement voté pour le Remain, mis à part l'Écosse.
On va faire dans un tout petit instant un peu de géographie électorale et voir les liens entre le vote pour le UKIP et le Brexit. Mais d'abord, peut-être tout petit mot encore sur cette question des profils. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études pour tenter d'analyser, de comprendre le vote du Brexit. Des profils ont été dressés avec une surreprésentation de retraités, de personnes peu qualifiées, issues de foyers modestes, et puis une sous-représentation en revanche des minorités ethniques, des étudiants, des diplômés, des moins de 35 ans. Mais au-delà des profils, on s'intéresse, nous, ce matin, à la question économique. Quelle importance est-ce qu'on confère aux questions économiques dans le vote du Brexit ? Je lisais un chiffre vraiment étonnant dans votre article. 6% des électeurs seulement du Leave ont voté pour le Brexit, considérant que leur pays allait avoir de meilleurs résultats en quittant l'Europe. Ça veut dire que les moteurs du Leave étaient ailleurs que dans l'économie.
Oui, là on trouve un autre aspect aussi qui est là encore fondamentalement lié aussi à des questions sociales et des questions économiques, c'est la question de l'immigration. La question de l'immigration, elle est aussi au cœur de ce vote pour le Brexit. Alors l'immigration au Royaume-Uni, c'est une immigration extra-européenne, mais c'est aussi et surtout une immigration européenne, c'est-à-dire c'est l'immigration d'Européens de l'Est, hein, de Polonais en grande majorité, mais aussi des Baltes, des Roumains, etc., qui sont venus travailler au Royaume-Uni depuis l'intégration de leur pays dans l'Union européenne et dans l'espace Schengen, hein, si on prend le cas de la Pologne et des États baltes, et qui travaillent, sont très actifs dans l'économie britannique pour des emplois qui sont souvent assez peu rémunérés et qui demandent assez peu de qualifications. Donc là, pour certains Britanniques d'origine modeste, il y a une forme de concurrence déloyale, une forme de dumping social, hein, avec l'arrivée de ces travailleurs est-européens. Et ça aussi, ça les inquiète beaucoup, hein, ces Britanniques des classes populaires.
Le UKIP, parti europhobe, anti-immigration, qui a beaucoup fait campagne pour la sortie de l'Union européenne. Il faut rappeler que ce parti, il est né dans les années 90 de l'aile, la plus à droite des Tories, sur un projet politique qui était extrêmement clair, qui était précisément celui de la sortie de l'Union européenne. D'ailleurs, c'était tellement son projet que Nigel Farage a quitté ses fonctions au moment du Brexit. Mais quel lien est-ce qu'on peut établir, parce que là, vous faites une vraie géographie électorale, entre le vote du UKIP et celui du Brexit? Est-ce que les foyers, disons, traditionnels de vote UKIP ont globalement voté pour le Leave?
Alors les foyers du UKIP, hein, là aussi c'est une géographie qui est assez compliquée. Il y a des territoires qui sont en grande difficulté économique avec une surreprésentation des populations pauvres, mais il y a aussi là des territoires qui sont prospères. On retrouve finalement un peu la géographie de l'euroscepticisme dans ce vote pour le UKIP. Il y a aussi des gens justement des territoires qui ont connu une très forte immigration d'Est européen. Donc c'est une géographie qui elle-même est déjà très compliquée, mais on retrouve bien entendu une similitude dans beaucoup de cas entre les zones de force du UKIP et bien entendu là où le Leave a fait les meilleurs scores. Mais ça s'arrête pas là, hein. Il y a aussi des territoires qui ne votent pas forcément massivement pour le UKIP et qui ont voté très massivement pour le Leave. Et là, on va plus les trouver justement dans le nord de l'Angleterre, dans des fiefs historiques du Parti travailliste.
Oui, et à l'inverse, là aussi ça fonctionne. Quand on vote peu pour le UKIP, on vote davantage pour le Remain.
Oui, alors, mis à part, je vous dis, hein, c'est pas deux cartes, hein, qui sont tout à fait similaires, la carte du vote pour UKIP et la carte pour le Leave, mais les territoires qui, historiquement, ne votent, enfin, historiquement, c'est pas une histoire qui est très ancienne, mais qui n'ont pas la tradition d'un vote très fort pour le UKIP, qui ont massivement voté pour le Remain. C'est le cas, bien entendu, de l'Écosse, là où on est dans une situation électorale radicalement différente, mais où le UKIP, même quand il présente des candidats, fait des scores vraiment ridicules.
On va revenir sur l'Écosse, mais pour bien comprendre qu'effectivement, on peut pas complètement superposer les cartes, c'est que, au fond, la question de l'Europe, elle est pas toujours aussi centrale. Il y a certains territoires où elle peut même être assez marginale. Je pense, par exemple, au Buckinghamshire, où là, en réalité, on voit qu'il y a des considérations locales qui ont énormément joué. Oui. Vous expliquez par exemple cette affaire autour d'un projet de construction d'une autoroute, un projet contre lequel précisément le UKIP s'est engagé. Et donc là, on est dans un cas, au fond, avec une forme de défense d'une Angleterre immuable, désireuse de préserver finalement ses campagnes, en tout cas telles qu'elles existent aujourd'hui. Et on est au fond assez loin des considérations européennes qu'on attend.
Oui, oui, là on est dans l'Angleterre la plus conservatrice au sens à la fois politique et au sens un peu des valeurs, hein, qui vote, enfin pas très massivement, mais qui vote pas mal pour le UKIP. Alors c'est pas un projet d'autoroute, c'est à la fois, il y a un projet de ligne à grande vitesse, hein, la ligne entre Londres et Birmingham, et il y a aussi d'autres questions d'aménagement du territoire qui inquiètent beaucoup les résidents dans toute la périphérie assez lointaine, périurbaine à l'ouest de Londres, notamment l'agrandissement de l'aéroport d'Heathrow avec la construction d'une troisième piste. Sur cet aéroport d'Heathrow. Et là, on est dans des campagnes qui sont un peu clichés, hein, de la campagne britannique. Et il y a une volonté vraiment de défendre ces paysages, de défendre ces espaces. Et pour beaucoup d'électeurs de ces territoires, le vote UKIP est apparu comme étant la seule solution possible parce que le Parti conservateur, notamment le gouvernement de David Cameron et aujourd'hui le gouvernement de Theresa May, soutiennent ces grands projets d'aménagement du territoire. Donc eux qui avaient traditionnellement voté pour le Parti conservateur ne veulent plus voter pour eux parce qu'ils défendent ces grands projets, donc ils votent pour le UKIP.
Ouais, ils représentent une alternative finalement autorisée aux conservateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir aller pêcher, j'allais dire, dans les eaux du Labour. Vous écrivez la chose suivante. Si dans les années 2000, le UKIP était surtout implanté dans le sud du pays à l'électorat traditionnellement conservateur et eurosceptique, l'élargissement à son discours à des thèmes plus sociaux lui a permis de progresser dans le nord de l'Angleterre sur des terres du Labour, notamment dans les vieux territoires industriels. Donc, on voit très bien que le UKIP a parfaitement su gauchiser d'une certaine manière son discours pour gagner des territoires traditionnellement acquis à la gauche. Sauf qu'il y a quand même des territoires qu'il n'est pas parvenu à gagner, et précisément l'Écosse dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, là on est en fait le UKIP, comme d'autres partis populistes en Europe, hein, sa stratégie c'est de rassembler tous les mécontents. Et donc là ils vont avoir un discours parfois qui se contredit radicalement, hein, mais bon, ils veulent vraiment capter tous les mécontents. Alors oui, en Écosse, ils n'ont jamais pu s'implanter. Leur nom c'est le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, mais en fait c'est un parti nationaliste, hein, clairement, mais c'est un parti nationaliste avant tout anglais, hein, c'est pas du tout un parti nationaliste britannique. Et ils ont un discours qui n'adhère absolument pas en Écosse. Hein, pour les Écossais, le UKIP, c'est avant tout un parti anglais, hein, pour des Anglais qui défendent des thèmes anglais, et absolument pas du tout un parti qui va défendre les intérêts des Écossais. Et les Écossais, eux, ils ont leur parti nationaliste, hein, le Scottish National Party, qui est un parti de centre-gauche et qui défend là vraiment les intérêts des Écossais pour beaucoup d'entre eux.
Merci beaucoup à vous, Marc Belloni. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Londres, géographe, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Votre article publié dans la revue Hérodote intitulé « Comprendre le vote pour le Brexit, de l'utilité d'une analyse territoriale ». Merci à vous. Et un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Anne-Laure Delatte, je rappelle, directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études et de recherche en économie internationale. Vous êtes responsable du programme de recherche macroéconomie et finances internationales. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci
également à vous, Catherine Mathieu, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Et vous aviez notamment écrit le chapitre Brexit, le prix à payer dans l'économie européenne 2017, qui est paru à la Découverte cette année. C'est bien ça?
C'est en février.
Merci beaucoup à toutes les deux. Et la musique l'appelle, c'est Brice Couturier, le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous avez évoqué hier la révolution du deep learning, l'apprentissage profond. On parle d'intelligence artificielle toute cette semaine. Qu'apporte justement ce deep learning de neuf dans l'intelligence artificielle?
Vous savez que les anciens logiciels étaient programmés par des humains. Eh bien, les nouvelles machines sont capables d'apprendre par elles-mêmes, comme l'a démontré le programme AlphaGo, développé par Google DeepMind. AlphaGo s'est entraîné en jouant plusieurs millions de parties virtuelles, et le mois dernier, il a battu le champion du monde du jeu de Go, le chinois Kei Jie. D'ailleurs, il a donné sa démission, il a dit qu'il arrêtait de jouer. Un exploit qui paraissait impossible. On peut toujours opposer le fameux paradoxe de Moravetz. Ce qui est compliqué pour nous est facile pour les robots, comme jouer au jeu de Go, mais ce qui est simple pour nous, comme monter des escaliers ou ouvrir une porte, se révèle très difficile à apprendre par une machine. Nous accomplissons ces tâches sensorimotrices parce que nos cerveaux sont l'aboutissement de millions d'années d'évolution. Ce n'est pas à la portée du premier robot venu, même doté de la plus extraordinaire intelligence artificielle. Pourtant, force est de constater que ces fameuses limites sont de plus en plus couramment franchies. Apparemment, les robots n'auront pas besoin de millions d'années pour apprendre à monter des escaliers. Et cela relance la fameuse question du point de singularité technologique, ce moment où l'intelligence artificielle atteindra et dépassera l'intelligence humaine. Alors des experts comme Margaret Bowden de l'université de Sussex estiment qu'il s'agit, je cite, d'un cauchemar de science-fiction. L'intelligence artificielle ne va pas, dans un avenir proche, exploser en s'auto-perfectionnant de manière autonome. Mais il est exact que l'IA dote désormais les machines d'une capacité à apprendre par elle-même. C'est en particulier le cas des circuits neuronaux convolutifs multicouches, inspirés du fonctionnement de nos propres cerveaux. Une machine ainsi équipée est capable de reconnaissance faciale, vocale. J'ai vu personnellement fonctionner à Tel Aviv un de ces yeux numériques de reconnaissance faciale qui garde en mémoire les visages de toutes les personnes autorisées à pénétrer dans un local et en refuse l'accès aux autres. La reconnaissance vocale peut être également utilisée dans le traitement automatisé du langage. Là aussi, j'ai également assisté dans les locaux de la société Systrane à Paris à une démonstration des capacités nouvelles dont sont dotés les nouveaux outils de traduction mis au point par ce biais. Et croyez-moi, ils sont stupéfiants et menacent la profession de traducteur, en particulier dans le domaine des langages spécialisés, dans les domaines de haute technicité. Mais selon Margaret Bowden, le deep learning et la reconnaissance visuelle trouveront bientôt des applications plus inquiétantes. Notamment, et j'en reparlerai demain, dans le domaine militaire. Aujourd'hui, ce sont des militaires qui pilotent à distance les drones chargés de supprimer les leaders des réseaux terroristes. Mais demain, prévient-elle, des armements automatisés risquent de décider de l'identité de leurs cibles de manière autonome.
Alors, vous avez cité Margaret Bowden. Elle a publié plusieurs livres sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur d'autres questions philosophiques comme l'origine et la nature de la créativité. Aucun n'a été traduit d'ailleurs en français. D'autres philosophes, Brice, peut-être à recommander, qui ont réfléchi à ces questions?
Ah oui, l'italien Luciano Floridi, auteur de plusieurs livres consacrés à la philosophie et à l'éthique de l'information. C'est un spécialiste passionnant des questions posées par l'intelligence artificielle. Son approche, très large, s'étend de l'épistémologie à l'éthique en passant par l'anthropologie. Pour lui, je le cite, « nous partageons dorénavant l'infosphère avec des agents artificiels qui deviennent de plus en plus intelligents, autonomes et même sociaux. Nous autres, dit-il encore, organismes analogiques, devons nous habituer à cohabiter avec des entités numériques de plus en plus nombreuses et perfectionnées. Les agents de l'intelligence artificielle, dit-il, nous arrivent de deux façons. D'une part, à travers les applications de nos smartphones, les bots du web capables de dialoguer avec nous, les algorithmes qui sélectionnent pour nous les lectures et les voyages susceptibles de nous intéresser, et de l'autre, à travers les robots, les voitures sans conducteur, les montres connectées et bien d'autres gadgets à venir. Cela fait des décennies, ajoute Floridi, que les technologies digitales et l'informatisation ont commencé à remplacer la main-d'œuvre dans l'agriculture et dans l'industrie. Et la nouveauté, c'est qu'elles vont dorénavant s'attaquer aussi aux services. Alors quels sont les emplois menacés? En première ligne, tous ceux qui servent d'interface entre une source d'information et une action à exécuter. Du médecin qui interprète des électrocardiogrammes au banquier qui doit évaluer la fiabilité d'un emprunteur. Moyennant quoi, observe le philosophe italien, certaines formes de présence humaine demeureront incontournables. Remarquez que les conducteurs de train sont plus faciles à remplacer par des machines que les conducteurs de voitures, et cependant, il n'est pas envisagé de priver les voyageurs de leur présence rassurante. Beaucoup d'emplois de surveillants devront d'ailleurs être créés. Même si les machines intelligentes à tondre les pelouses ont fait leur apparition, eh bien, la présence d'un jardinier demeure nécessaire. Mais sa fonction devra évoluer. Il deviendra paysagiste.
Merci beaucoup, Brice Couturier. J'espère qu'on a encore un peu d'avenir, nous aussi. Hein. On ne sera pas complètement remplacé.
On est irremplaçable.
Oh, je ne suis pas sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Brice Couturier. Votre chronique, on peut la retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve La Grande Table avec Olivia Gesbert.